Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Ravi de vous retrouver pour ce Mac de l'Immo, ce tout nouveau numéro avec notre invité. Cette semaine, je reçois Dominique Boussuge. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors, on est ravis de vous recevoir. Merci. Vous êtes présidente de l'Institut international des experts et des experts Vauban. Vous allez justement nous présenter ces instituts. Pathologiste, expert technique et scientifique en ouvrages bâtis, national et international. Vous êtes spécialiste en sauvegarde du patrimoine, experte en risque majeur à l'international. On va en parler justement. Et en risque bâtimentaire, professeur affilié en école supérieure, conférencière et formatrice. Rien que ça. En tout cas, on est ravis de vous recevoir.
Merci
parce que
beaucoup.
Vous allez nous faire part de votre expertise. Et justement, hélas, l'actualité s'y prête. On va discuter de ce bâti, du risque d'effondrement urbain et de l'état du bâti en France, à l'international aussi. Alors, dans le Mac de l'Immo, on parle du coup de l'expérience passée, on parle des fonctions présentes, et puis voilà, de ce que la personne aime dans la vie. Et vous êtes à la programmation musicale. Et justement, on a écouté votre première musique, alors c'était Dalida. Pourquoi ce choix ?
Alors, pourquoi ? Pour être présente pour les bâtiments jusqu'au bout. Parce qu'il ne suffit pas de mettre de la couleur et de la matière sur un bâtiment parce qu'il est dans un secteur protégé ou sauvegardé, pour s'en occuper, quoi. Je pense que les murs ont une mémoire, ils ont une histoire, et c'est ça qu'il faut défendre. Et on s'aperçoit pourquoi les propriétaires surestiment toujours le prix des biens qu'ils vendent, mais parce qu'ils ont une histoire à l'intérieur, ils ont des souvenirs. Si l'agent immobilier expliquait peut-être aux vendeurs que les souvenirs, ils les emportent avec eux, et qu'il ne reste en fait que des murs, quoi. Peut-être que les prix, ils comprendraient qu'il faut baisser un peu le prix.
Voilà, le message est passé. Alors, Dominique Boussuge, bon, vous avez de nombreuses casquettes. Si vous deviez vous décrire à nos auditeurs, voilà, en quelques phrases, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, ce que je dirais, il y a plus de 30 ans que je m'occupe de la sauvegarde du patrimoine et de tous les risques bâtimentaires, surtout les effondrements. Pour quelle raison ? Parce qu'on a cet héritage de nos anciens. Ils nous ont laissé des murs porteurs. Ils nous ont laissé... Il faut savoir que les premières maisons en France ont été construites il y a plus de 5000 ans avant notre ère. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il faut s'en occuper, quoi. Il faut les sauvegarder. Donc, principalement, je m'occupe de ça, de les défendre. Un réseau d'experts aussi en France que j'ai formé sur la pathologie des bâtiments. Donc on s'occupe de tout ce qui est risque bâtimentaire, les risques d'effondrement, et Dieu sait que tous les mois, on a des sujets comme ça de risque d'effondrement. Donc on intervient 24 heures sur 24, jour et nuit, on est présent. Et les experts Vauban sont présents sur toute la France.
Donc les experts Vauban, c'est l'institut que vous présidez, hein ?
Tout à fait, oui. C'est l'institut que je préside, et on a des experts partout en France. Et je suis enseignante aussi en école supérieure parce que je pense qu'il faut transmettre. Demain, on n'existera plus, on ne sera plus là. Et je pense que c'est à nos jeunes qu'il faut transmettre tout ce savoir pour qu'ils puissent demain sauvegarder nos bâtis pour éviter qu'ils s'effondrent. En tout cas, repérer tous les signes qui font qu'un bâtiment risque de s'effondrer. Ou alors, ne serait-ce que la reconnaissance d'une fissure, comme je fais toute l'année. Je parcours la France pour former les réseaux immobiliers. Je leur apprends la reconnaissance des fissures, de l'humidité et toutes les pathologies. Ça leur sert, je pense, pour vendre beaucoup mieux, quoi, pour expliquer aux futurs acquéreurs. C'est important.
Alors là, quand vous parlez de vos fonctions, on sent que vous êtes attaché au bâti, à l'histoire du bâti, au passé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne, justement, l'histoire, savoir ce qui s'est passé dans notre pays et puis même plus largement sur notre planète ?
Mais oui, on a quand même un héritage de nos anciens qu'on doit respecter. On a cet héritage, ils nous ont laissé, nos ancêtres, des murs porteurs. Des murs porteurs, et c'est notre passé et c'est aussi notre futur, ces murs porteurs. C'est la plus belle invention, je pense, qui est au monde. Si vous posez la question à des gens, quelle est la plus belle invention au monde ? Certains vont vous répondre l'informatique, d'autres la voiture. Et pour les plus jeunes, l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est les murs porteurs. Voilà, je pense que c'est, sinon on n'existerait pas, enfin on serait pas à l'abri comme on est aujourd'hui, ni pour travailler, ni pour habiter. Et les premières maisons, comme je vous disais tout à l'heure, elles ont été, la première maison a été construite en France 5000 ans avant, avant notre ère. Mmh. Donc elle était en, avec de la terre, l'ossature était en bois et le toit était en chaume. C'est merveilleux quoi, c'est magnifique.
Vous vous intéressez au passé, mais aussi au présent.
Et aussi au présent et au futur.
Voilà, au futur, mais avec la prévention qui se passe bien à l'instant T, c'est important. Pourquoi c'est si important pour vous de... Pourquoi, enfin, comment vous vous êtes dirigé vers, vers cette spécialité-là, justement, le bâti, les risques d'effondrement
Alors, j'ai commencé par, par l'architecture hein, et je me suis aperçue que j'allais m'ennuyer assez rapidement. Il fallait que je sois beaucoup plus sur le terrain et pas seulement dessiner les bâtiments, mais aller les défendre, comme une ambassadrice en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette voie qui, j'espère, sert au bâtiment en premier et puis pour éviter de voir des gens sous des décombres. On est quand même en 2024, hein, quoi. C'est pas normal qu'on ait encore des gens sous des décombres. Il faut savoir que quand vous vendez ou que vous louez un bien immobilier, vous avez tous les diagnostics possibles, hein, termites, amiante, plomb, électricité, gaz, DPE aussi, c'est très important, et la structure, on vend des murs et on s'en occupe pas. Il n'y a aucun diagnostic qui existe.
Alors, vous faites référence aux tristes événements hein, qui se sont passés dans différentes villes. On se souvient tous de Marseille, Lille, récemment Toulouse. Alors, Toulouse, vous me disiez quand on parlait hors antenne que c'était un de vos élèves qui avait, entre guillemets, bien, sauvé les habitants de l'immeuble.
Oui, je suis enseignante donc, en école supérieure à la Fac Capitole de Toulouse pour les juristes de copropriété. Et j'avais un élève l'année dernière qui m'a appelé. Il m'a dit, madame, tout ce que vous m'avez appris en cours, je viens de le retrouver sur un immeuble. Et donc, j'ai demandé la mise en sécurité de procédure urgente. Maintenant, on appelle comme ça, en fait. Ça s'appelait avant l'arrêté de péril. Il m'a dit, j'ai fait évacuer. Donc ça, c'était le lundi soir à 18h.
Et qu'est-ce qu'il a constaté concrètement?
Alors, il a constaté des fissures importantes, enfin, des lézardes, des affaissements de plancher.
D'accord. Dans les parties communes ou dans les parties privées?
Dans les appartements. Et c'est surtout ce qu'il a alerté, c'est un propriétaire ou locataire, je pense, qui l'a appelé pour lui dire « je n'arrive plus à rentrer chez moi, la porte force ». Donc, il s'est déplacé.
D'accord.
Il s'est déplacé et quand il a vu que la porte forçait, il s'est remémoré tout ce que je lui avais dit en cours, hein, tous les signes avant-coureurs de risque d'effondrement, notamment les portes qui n'arrivent plus à s'ouvrir, les fenêtres, pareil.
Donc c'est dû à quoi en fait? Ça s'est tassé, le bâtiment s'est tassé et du coup la porte ne peut plus, on a du mal à l'ouvrir.
Elle frottait, elle ne pouvait plus s'ouvrir. D'accord. Donc il a fait cette demande donc, de mise en sécurité de procédure urgente le lundi soir à 18h. La mairie a été très réactive de Toulouse, elle est passée le mardi à midi. Et quand elle est passée, le mur en rez-de-chaussée des commerces s'est effondré, en présence de la mairie. C'est là qu'ils ont fait évacuer tout le monde.
D'accord.
Et l'immeuble s'est effondré
donc ça s'est
dans la nuit de samedi à dimanche, je pense.
À peu de choses près, en fait.
À quelques jours près.
Ouais.
Il l'a évité, parce que ça lui revient à lui, il a évité beaucoup de morts.
Ouais, il a sauvé des gens.
C'est pour ça qu'il faut enseigner à nos jeunes tous ces signes avant-coureurs.
Alors justement, si on peut faire un petit point à nos auditeurs qui ne sont pas du tout, pour les non-professionnels, hein, qui ne connaissent pas grand-chose à l'immobilier, qui sont peut-être locataires, qui sont propriétaires, quels sont les signes alarmants que l'on doit à tout prix, pour lesquels on doit prévenir un professionnel?
Alors, les signes avant-coureurs sont les portes qui ont du mal à s'ouvrir, qui forcent, qui frottent au sol. Les fenêtres, pareil, qui n'arrivent plus à s'ouvrir ou difficilement, qui grincent quand on les ouvre. Les fissures, bien sûr, les fissures. Alors, ça dépend comment est construit le bâti. S'il est construit en éléments rectangulaires, c'est-à-dire en briques ou en parpaing, les fissures structurelles, c'est-à-dire la stabilité du bâti, si c'est une fissure structurelle, c'est que les fondations sont touchées et les murs de structure. Donc, éléments rectangulaires, briques, parpaings, c'est tout ce qui va être en escalier, il faut faire attention. Tout ce qui est béton, ça va être vertical ou à 45 degrés. Et tout ce qui est en pierre, ça suit en fait le joint de la pierre.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment les éléments majeurs.
Oui, et les infiltrations surtout. Il ne faut jamais laisser une infiltration sur un bâti parce que cette eau qui s'infiltre vient déliter le joint entre les pierres. C'est-à-dire que l'eau va venir enlever le joint qui est entre les deux pierres. Donc les pierres ne sont plus tenues, elles sont déstabilisées et ça entraîne des effondrements.
D'accord.
Donc l'eau c'est...
Est-ce qu'un gros dégât des eaux, ça peut causer un effondrement à terme si
à terme, oui.
On le traite pas.
Oui, à terme, oui. Pourquoi ? Parce que ça va enlever le joint entre les pierres, surtout si le bâti est en pierre. Ça va enlever le joint entre les pierres et les pierres ne sont plus tenues entre elles, n'ont plus de joint. Donc, il suffit qu'il y ait un moindre mouvement de sol, par des argiles, par des vibrations ou autres, ben, ces pierres, comme elles ne sont plus tenues, elles vont bouger et ça entraîne l'effondrement.
Est-ce qu'il y a des types de bâtiments, par rapport à leur année de construction ou à leur localisation, qui sont plus à risque que d'autres ?
Alors, c'est difficile à dire. Il faut savoir que déjà, les bâtiments ont une durée de vie. Voilà. Le béton a une durée de vie limitée. Nos ingénieurs, à l'époque, ont pensé que le béton était quelque chose de millénaire, que ça allait durer comme un thermo, sans entretien, sans rien. Ce qui est faux.
D'accord.
Ce qui est faux. Au bout de entre 50 et 70 ans, le béton arrive en fin de vie.
Et alors, les appartements haussmanniens, par exemple, à Paris ?
La pierre, toujours pareil, si elle est entretenue, si elle est entretenue, si toutes les pathologies sont traitées, c'est-à-dire si on n'a pas d'infiltration, ça peut durer un peu plus que le béton.
Et un peu plus, c'est quoi en termes de d'années
100, 120 ans, 200 ans, vous en avez de magnifiques sur Paris. Tous ceux qui sont entretenus, je pense qu'ils ont plus de 200 ans et ils tiennent encore.
Et là, il n'y a pas de risque d'effondrement si on ne voit pas, en tout cas, les fissures les...
Et au niveau des plaintes aussi, si sous les plaintes vous avez un vide, une flexion du plancher, qui a un vide en plein centre, c'est qu'il y a un tassement. Donc peut-être qu'une poutre est pourrie en dessous.
Ouais.
Et suffit qu'il y a du poids dessus pour que cette poutre fléchisse, se casse, et donc les murs se referment comme un château de cartes.
Alors quand il y a des drames comme ça, hein, comme ce qui s'est passé dans ces villes, qui sont les responsables, en fait, au final ?
Ben, les copropriétaires. Les copropriétaires, c'est difficile à dire, mais les syndics essaient de faire voter des travaux. Ils essaient, mais le problème, c'est que les copropriétaires n'ont pas d'argent, quoi.
Ah oui.
Ou refusent les travaux. Que peut faire un syndic ? Ben, pas grand-chose, quoi. Parce que lui, il n'est pas propriétaire de ce bien immobilier. Donc, ils essaient de faire voter ces travaux, en sachant que quand il y a un problème de sécurité... Ben les syndics doivent commencer par faire réparer, mettre en sécurité, et après le faire voter. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et faut-il encore qu'ils fassent intervenir les bonnes personnes pour expertiser le bâti ? Parce que des experts, vous en avez partout.
Ouais. Et c'est vrai que, alors, on en entend beaucoup parler avec la rénovation énergétique. Il y a beaucoup de fraudes et d'arnaques, justement. Et
évidemment, oui.
Ouais.
Évidemment.
Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Ouais. Quel conseil vous pouvez donner, justement, aux auditeurs qui nous écoutent pour essayer de faire appel aux bons professionnels ? Qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont les conseils ?
C'est compliqué à dire, mais rechercher déjà sur Internet si c'est un réseau, appeler le responsable du réseau, poser quelques questions, s'ils sont assurés, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'experts actuellement, des pseudo-experts qui ne sont pas assurés, qui interviennent partout. Nous, avec les experts Vauban, on fait aussi des PPT pour les
donc, plan pluriannuel de travaux.
Plan pluriannuel de travaux.
Ouais.
Les travaux étalés sur 10 ans, mais ce plan pluriannuel des travaux, il faut faire un diagnostic structure avant de s'occuper de la thermique. Hein. C'est un ensemble, en fait, le PPT, le plan pluriannuel de travaux. Et actuellement, vous avez la partie thermique qui est très bien gérée par les diagnostiqueurs. Certaines personnes se permettent de faire ce diagnostic structure sans avoir été formées à la pathologie des bâtiments.
C'est quand même incroyable.
C'est quand même incroyable.
Alors aujourd'hui, quel est l'état actuel du bâti dans les différentes villes de France ? Si vous devez, au quotidien, qu'est-ce que vous constatez ? Qu'est-ce qui se passe dans nos villes françaises ?
Alors, les bâtiments sont en souffrance. Vous n'avez que circuler dans tous les centres-villes de France. Vous allez voir que les bâtiments sont en souffrance. Ils sont laissés à l'abandon par manque de moyens, je pense, par manque de moyens. Une fois de plus, les mairies, ils ne sont pas pour grand-chose. C'est du privé, donc la mairie ne peut pas intervenir. Donc, j'ai tendance à dire, toutes les villes de France, vous avez au moins une rue qui est à risque.
D'accord, une rue dans chaque ville de France.
Sans aucun problème.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Est-ce que l'État doit devenir responsable? Est-ce que les communes doivent devenir responsables? Est-ce qu'on doit obliger les copropriétaires à avoir d'autres diagnostics? Qu'est-ce que vous...
Alors, je pense qu'il faut imposer ce nouveau diagnostic structure. Actuellement, il y a un article qui est en train de passer, le 126-6-1, pour que chaque commune, chaque maire puisse décider d'un quartier pour imposer le diagnostic structure. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de tout ça. Il faudrait en fait inventer le diagnostic structure pour chaque vente, chaque location et toutes les copropriétés de France, que les bâtiments soient contrôlés. Il faudrait que tout soit contrôlé. Donc il y a vraiment du boulot.
Et c'est faisable, ça, c'est réalisable?
Mais évidemment que c'est réalisable, évidemment. Moi, j'ai proposé au maire de ma commune de le faire bénévolement pour le village, de passer, bien sûr, en extérieur, vérifier tous les bâtiments et lui dresser un listing de tous les bâtis en souffrance.
À l'extérieur, ça se voit déjà?
Oui, vous avez des signes, évidemment, avant
les fissures dont vous me parliez.
Vous avez des fissures, vous voyez s'il y a des infiltrations, vous voyez les tassements de sol, oui. On arrive à déceler de l'extérieur, oui.
Et le réseau dont vous parliez donc tout à l'heure, que vous présidez, donc les experts Vauban, vous disiez qu'ils sont situés sur toute la France. Est-ce que c'est un maillage assez fin, ou est-ce que il y a quand même des zones qui sont moins entretenues, on va dire? Combien ce réseau possède de personnes?
Alors, pour le moment, alors je fais quand même une sélection assez drastique, parce qu'il ne suffit pas de porter le titre expert pour se prévaloir de ce titre. Moi, les experts Vauban, mon réseau d'experts Vauban, ils ont le respect du patrimoine et de la mémoire du bâti. Et c'est ce que je recherche, des passionnés dans le bâtiment, et pas qu'un titre. Donc, ils sont formés en pathologie du bâtiment, ils interviennent aussi bien en risque majeur à l'international qu'en France. Quand on a des inondations, c'est un risque majeur. Les séismes aussi, on en a malheureusement en France de plus en plus. Risque bâtimentaire, tous les risques d'effondrement. Ensuite, tout ce qui est fissure pour les retraits et gonflements d'argile, puisqu'actuellement la sécheresse a cassé beaucoup de nos maisons.
La sécheresse est un facteur aggravant.
Oui, c'est un facteur...
Donc l'eau et la sécheresse aussi.
La sécheresse, oui, actuellement, oui. Le climat joue beaucoup. Et c'est pas surtout l'été qu'on a ces problèmes d'effondrement, on le remarque, c'est toujours en automne. Parce que l'automne, il pleut énormément, la terre gonfle avec l'eau et ça déstabilise deux fois plus les maisons. En été, c'est assez rare d'avoir des effondrements. Donc l'eau joue beaucoup dans les effondrements.
Là, vous parliez de l'international. Comment est la France par rapport aux autres pays, peut-être européens dans un premier temps, et puis peut-être un peu plus loin?
On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal pour certains pays méditerranéens. Je pense qu'on est bien. On ne va pas parler des pays sous-développés, parce que eux, malheureusement, ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour. Moi, j'étais partie en Algérie pour former des experts. C'est des pays qui sont compliqués pour mettre en place tout ça.
Par manque de moyens.
Par manque de moyens, par surtout ça, oui.
Et même certains pays européens, j'ai été récemment en Hongrie et j'ai été frappée justement par l'état du bâti là-bas, que j'ai trouvé assez justement délaissé, je sais pas si vous avez...
Oui, il ne faut pas penser que les pays qui sont situés au nord de la France, on pense surtout à tout ce qui est véhicule, on dit les Allemands sont vachement plus forts que nous, tous ces pays, le bâtiment non, ils ne sont pas mieux que nous, c'est exactement, on en est au même constat.
Est-ce qu'il y a des pays en revanche en avance sur nous?
Oui,
le Japon,
évidemment.
Par exemple.
Alors, le Japon, vous avez aussi le Canada. Je suis enseignante aussi dans une école à Montréal, au Canada. Et on s'aperçoit qu'ils respectent beaucoup plus le bâti que nous. C'est bien mieux entretenu.
Alors, c'est-à-dire, ils font plus de... Qu'est-ce qu'ils font pour respecter le bâti?
Ils n'attendent pas, comme nous, d'avoir des désordres partout sur un bâtiment pour intervenir. Dès qu'ils ont la moindre fissure, ils viennent la réparer.
Donc, les copropriétaires?
Les copropriétaires.
Alors, est-ce qu'il y a plus d'argent aussi, peut-être?
Peut-être, oui. C'est un pays beaucoup plus riche, évidemment.
Donc, en fait, tout est un peu question de fond, au final.
De fond, beaucoup, oui. Beaucoup.
Ouais. Ouais. Et là, alors concrètement, dans les semaines à venir, quelles sont vos missions, vos objectifs concrets, notamment avec le gouvernement, par exemple? Quels sont les messages que vous voulez faire passer?
J'ai rencontré Madame Estrosi Sassone, la sénatrice, pour lui demander si elle accepterait de créer une commission pour travailler ensemble sur le diagnostic structure que j'essaie de faire mettre en place depuis plus de 20 ans en France. On va voir, je pense qu'elle va prendre le temps de la réflexion et on va pouvoir en reparler.
Donc ce dont vous parliez tout à l'heure, hein, que ce soit rendu obligatoire pour éviter les drames qu'on a connus. Alors c'est marrant parce qu'on a vu dans les médias, en fait à chaque fois les maires, les communes sont citées comme responsables. Alors c'est pas ce que vous dites.
Non. Je prends l'exemple de Toulouse. La mairie de Toulouse a été très réactive. Ouais. La demande a été faite la veille à 18h. Ben, ils sont intervenus le lendemain à midi. Ils ne peuvent pas être plus réactifs. Et en sachant que c'est de l'habitat privé. Un maire ne peut pas passer dans chaque copropriété pour connaître l'état. C'est du privé. Ils n'en ont pas le droit de toute manière. Je pense que c'est les syndics qui devraient... Alors, ils n'ont pas plein pouvoir. C'est les copropriétaires qui décident de faire les travaux. C'est le problème.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, faire plus de pédagogie, justement, auprès des propriétaires, des copropriétaires, peut-être les informer, parce que je suis sûre que beaucoup ne sont même pas au courant.
Mais tout à fait.
Encore une fois, c'est un métier.
Oui, tout à fait. On forme les professionnels de l'immobilier sur les pathologies. Moi, je les forme. Je pense que ce qu'il faudrait former, c'est surtout les copropriétaires. Vous avez des émissions qui passent sur les chaînes pour vendre des biens immobiliers. Pourquoi on ne ferait pas une émission tout simplement pour parler de pathologie? Je pense que ça serait pas mal, quoi. Ça sensibiliserait les gens sur les fissures, on apprendrait les fissures, comment les repérer, comment vendre bien. Je pense que les gens savent comment ça se passe. Sans dénigrer ces émissions, elles sont très bien.
Oui.
Et peut-être rajouter une demi-heure un quart d'heure de pathologie. Ça serait pas mal.
Et peut-être former aussi les professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers.
Alors je les forme, moi je tourne en France.
Ils ne sont pas tous formés, hein. Vous avez
tous,
du travail encore.
Pas tous, oui, il y a quand même du travail. Je tourne en France toute l'année dans différents réseaux pour former sur la pathologie. Donc. Beaucoup sont quand même formés, certains gros réseaux sont formés.
Oui, les gros réseaux, c'est sûr que ça fait partie de leur ADN.
Oui, mais... c'est leur culture.
Bien sûr. Parlez-nous du livre blanc, le fameux livre blanc.
Alors, j'essaie de faire entendre ma voix un peu partout. Donc, chaque année, j'envoie au président de la République et au Premier ministre et au ministre du Logement le livre blanc que j'écris. Donc, je recense en France tous les risques d'effondrement et tous les effondrements qu'il y a eu dans l'année. Et je lui envoie ce livre pour le sensibiliser sur tout ce qui s'est passé, en espérant que je sois entendue pour rendre obligatoire ce diagnostic.
Vous avez des réponses déjà?
Alors, 2022, on m'a répondu pour me demander de continuer mon combat, que c'était génial. Je trouve pas ça bien, quoi.
Qui c'est qui vous avez répondu le...
Alors, le cabinet de la présidence de la République. Je pense pas que ce soit le président qui a pris sa plume.
Ouais.
Mais je pense que... Plutôt que ces mots, ça aurait été bien qu'ils s'en préoccupent beaucoup plus. Par contre, 2024, donc le livre blanc 2023, c'est parti le 15 janvier, j'ai toujours pas eu de réponse. Mais l'actualité fait que peut-être...
Il y a eu un changement de ministre du logement, que ça va être bénéfique pour vous.
J'espère qu'il aura mon livre blanc, en tout cas.
Ouais. Et c'est vrai, alors justement, on va parler de ce nouveau ministre, Guillaume Kasparian, il a l'air un peu plus investi, avec Gabriel Attal, en tout cas, il y a une espèce de dynamique qui se crée. Qu'est-ce que vous pensez de...
Oui, une dynamique qui se crée, mais il ne suffit pas de
parler.
De bouger, de parler. Il faut agir, quoi. Pierre Corneille disait très bien, les mots ne bâtissent pas des murs. J'ai envie de leur dire ça. Vos mots ne bâtissent pas des murs et ne les sauvegardent pas. Donc agissez. Agissez plutôt que de parler. Il faut leur laisser le temps.
Les entreprises du bâtiment qui construisent. Alors justement, on a vu que c'était un petit peu compliqué en ce moment, enfin même très compliqué pour le secteur.
Très compliqué pour eux, oui.
Ouais. Est-ce que vous êtes en lien, j'imagine, avec eux directement?
Oui, je forme aussi des promoteurs, très gros promoteurs en France immobiliers sur la pathologie et tous les risques si c'est mal construit, mal édifié. Ils sont vraiment en difficulté, oui.
Ouais.
Vraiment. En sachant je pense que c'est en 2030 qu'on nous a dit qu'il fallait arrêter d'artificialiser nos sols, donc bien moins de construction. Que vont-ils devenir?
Avec le dispositif ZAN. Vous êtes contre ce dispositif, vous?
Pas forcément. Il n'y a jamais de pour, il n'y a jamais de contre. Je suis jamais tout blanc ou tout noir. Mmh. Voilà. Il y a du bon et du mauvais sur les deux côtés.
Il y a des ajustements à faire.
Bah, évidemment. Mmh.
On parle beaucoup de rénovation énergétique. Alors, quel est votre point de vue là-dessus, justement, la rénovation énergétique?
Bien sûr que vous voulez savoir.
Ouais.
Bon, il faut s'occuper de la thermique du bâti, c'est certain. Voilà, ouais. Il faut s'en occuper. Est-ce que mettre de l'isolation par l'extérieur, c'est la solution pour éviter d'arriver à un choc pétrolier? Choc pétrolier, je le rappelle, c'est quand on demande beaucoup d'électricité, par exemple, et que l'État ne peut pas nous le produire. Donc, s'isoler, on a fait des réglementations thermiques. La première, elle a été en 75. On a continué jusqu'à nos jours. Et là, on est passé à la réglementation énergétique. Donc, on n'isole plus par l'intérieur. Maintenant, c'est par l'extérieur. Ça va alourdir les structures. Et on va voir des effondrements encore plus. Et puis, en plus, on va venir masquer toute la structure. Donc, si avant de faire cette isolation par l'extérieur, il n'y a pas de vrais experts en pathologie qui sont passés pour vérifier l'état de la structure, qu'est-ce qu'il va advenir? Je me pose la question.
Donc pour vous, c'est pas un combat
Il faut isoler les bâtis, mais
pas comme ça.
Mais voilà, il fallait réfléchir différemment. Il fallait commencer par imposer le diagnostic structure et ensuite l'isolation.
Bah c'est vrai que ce DPE a été mis en place sans étude d'impact.
Oui, tout à fait.
Donc forcément, ce n'est que ça, mieux, c'est limite.
Ça va enlever les passoires qu'on peut avoir. C'est pas normal que des gens vivent encore dans des maisons qui ne sont pas isolées. Donc évidemment qu'il fallait le faire. Mais on s'occupe que des gens payent beaucoup de factures. Par contre, on s'occupe beaucoup moins de gens sous les décombres. Je trouve ça quand même très surprenant. Mmh. Donc, il fallait commencer par le début, que les murs tiennent, et après, on pourra peut-être les isoler. Mmh.
On va parler des gens que vous formez, puisque vous êtes professeur, vous êtes formatrice. C'est ce que vous disiez. Alors, vous choisissez, vous avez envie de sentir la fibre, vraiment la passion, en tout cas pour le réseau Expert Vauban. Qu'en est-il des jeunes que vous formez? Est-ce que vous sentez un intérêt? Est-ce qu'il y a besoin de convaincre davantage les jeunes? Dans quel état d'esprit sont les nouvelles générations, la nouvelle génération?
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que c'est nos générations qu'on laisse ça de côté. Les jeunes sont très intéressés. Ils sont passionnés par le bâti, en tout cas ce que j'ai dans mes cours. Oui. Je leur apprends quand même quelque chose de particulier, reconnaître des fissures, les risques d'effondrement, tous les signes avant-coureurs, et je leur montre des vidéos, et ils sont passionnés. L'exemple, mon élève de Toulouse qui a fait évacuer un immeuble tout jeune, je veux dire, c'est un héros, quoi. Mmh. Ça aurait été quelqu'un de notre âge, on est beaucoup plus laxiste. C'est-à-dire qu'on en voit tellement. Vous faites le tour d'un centre-ville, vous allez voir tellement de fissures, tellement de problèmes, même sur les balcons, que vous dites, ça a tenu jusqu'à maintenant, ça tiendra encore. Alors que ces jeunes cerveaux, ils sont tout neufs. Donc, tout ce qu'on leur met dans la tête actuellement, on leur apprend, ben, ils le mettent. Ils s'en servent de suite. Donc, ils arrivent à déceler beaucoup plus facilement que nos générations à nous. Moi, je dis bravo.
Est-ce qu'il y a peut-être aussi plus de techniques qu'avant?
Alors, la pathologie, il n'y a pas si longtemps qu'on l'apprend dans les écoles. Il n'y a pas si longtemps. Moi, j'interviens dans les écoles il y a un peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans qu'on enseigne la pathologie dans des écoles de l'immobilier, où c'est qu'on forme des futurs agents immobiliers, des futurs syndics, des futurs gestionnaires. C'est très récent, la pathologie.
Qui a mis ça en place?
Alors, moi, il y a plus de 30 ans que je suis expert en pathologie et expert international. Et il y a un peu plus de 20 ans que je forme en pathologie en France. À l'époque, on n'en entendait pas parler. D'ailleurs, beaucoup de réseaux m'appelaient pour me dire c'est quoi la pathologie? Vous voulez nous parler de quoi?
Ça fait très médecin du bâti.
Ouais, c'est médecin du bâti. Je ne sais pas si je suis précurseur, mais en tout cas, si je le suis, j'en suis fière. Ouais. Parce qu'il était temps qu'on s'en occupe.
Ouais. Et donc maintenant, ça se développe de plus en plus.
Est-ce que vous sentez, maintenant, vous voyez,
plus de demandes?
Alors, énormément de demandes et beaucoup de pathologistes qui fleurissent, qui voient le jour. Donc tant mieux si c'est des gens qui ont été bien formés et qui enseignent aux autres personnes. Je dis tant mieux, quoi, je me sens moins seule.
Alors on va parler de vous un petit peu. Donc c'est vrai que vous avez différentes casquettes. Comment vous faites pour organiser votre temps comment vous...
Alors il faut être hyperactive en premier. C'est une question d'organisation. J'ai à mon bureau Manon Viala qui m'organise ça parfaitement. Et c'est une question d'organisation, je pense. Mais je ne compte pas mes heures, hein, évidemment. Hein, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Oui.
Voilà. Donc je m'autorise les week-ends que je souhaite, mais il n'y en a pas beaucoup.
Mais c'est aussi la passion qui veut ça.
C'est de la passion, sinon on ne peut pas faire ce métier quand on n'est pas passionné. Vous voyez que des problèmes, hein, tous les jours. On ne voit que des problèmes.
Et comment vous faites justement pour vous motiver? Vous dites quoi? Vous dites que vous sauvez des vies
Des vies et des bâtiments.
Et des bâtiments,
comme je vous dis, c'est l'héritage de nos ancêtres, ça se respecte, c'est un héritage. Et les bâtiments, ils ont une mémoire, je pense que ça se respecte. C'est ce respect, c'est un devoir de mémoire en fait qu'on a.
C'est quoi vos bâtiments préférés en France?
Les Haussmanniens. Ouais. Chaque région, vous allez en Alsace, vous avez des maisons à colombage magnifiques aussi. À Paris, les Haussmanniens sont exceptionnels quand même. Ouais. Exceptionnels. Dans toutes les régions. Toutes les régions ont cette architecture vernaculaire. Vernaculaire veut dire de région. Donc la France est magnifique quand même. Ouais. On a de belles régions.
Et c'est vrai que par rapport à d'autres pays, vous qui voyagez beaucoup, est-ce que y a d'autres pays comme ça qui vous ont séduit?
Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont tous les villages très reculés d'Afrique, où ils ont des huttes, où ils ont des bâtis en terre. On sent la main de l'homme qui a construit ça.
Ouais.
Voilà, c'est fabuleux.
Et vous êtes touchée quand vous allez là-bas?
Ouais, très très touchée. Parce qu'ils n'ont rien en fait.
Ouais.
Ils n'ont rien, ils ont presque pas d'eau. Ils ont de la terre, ils se débrouillent comme ils peuvent et ils l'entretiennent beaucoup plus, nous, avec nos moyens technologiques qu'on a aujourd'hui et notre savoir-faire. Eux entretiennent beaucoup plus. Dès qu'ils ont un problème sur ces maisons en terre, ils l'arrangent de suite, ils reprennent de la terre et ils arrangent tout ça.
Ils interviennent tout de suite?
Tout de suite. C'est des pays sous-développés, ils n'ont rien. Donc ils ont intérêt à réparer très rapidement, parce que si ça tombe, ils n'ont plus rien sur la tête pour se protéger.
Et quand vous allez dans ces pays-là, c'est dans quel contexte?
Alors, en Haïti, par exemple, c'était suite au séisme qu'il y avait eu en 2010. Suite à ce séisme, j'étais allée pour faire le pont de la rivière froide, expertiser le pont et d'autres bâtiments.
Ouais.
Je suis descendue dans les bidonvilles, je suis allée, parce que les piles de pont sont évidemment dans les bidonvilles. J'ai trouvé des gens magnifiques dans les bidonvilles, des gens adorables, avec ces maisons construites de tôle, de ce qu'ils avaient, de terre, je trouvais ça fabuleux.
En Inde aussi, il y a beaucoup de maisons en
Vietnam
terre.
Le Vietnam aussi. Ouais. Le Vietnam avec le bambou, ils font des choses magnifiques.
Vous avez évoqué les ponts, c'est quelque chose, c'est une de vos spécialités aussi. En France, on est servi aussi en ponts qui menacent de s'effondrer.
Je crois qu'on a encore 23 ponts en 3U, c'est-à-dire en risque. En risque effondrement et d'autres qu'il faut, il faut intervenir rapidement pour faire des travaux. On en a encore 23. C'est quand même... Mais c'est surveillé par rapport au bâtiment.
C'est plus surveillé que le bâti?
Évidemment. Évidemment. Ouais. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y en a pas un qui ne risque pas de s'effondrer. Mais c'est beaucoup plus surveillé que nos bâtiments ne le sont pas du tout.
Et ça, comment vous l'expliquez? Parce que c'est des parties qui appartiennent... C'est sur la voie publique, c'est ça?
C'est très compliqué, un pont. Vous pouvez avoir une partie qui appartient au département, une partie aux autoroutes, l'autre partie à la commune. C'est très complexe.
D'accord.
Très complexe.
Mais il y a quand même plus de passages et donc plus d'experts. Comment vous expliquez le fait que ce soit plus surveillé, c'est plus accessible?
Mais vous avez du public qui passe dessus, donc ils se doivent de contrôler.
D'accord.
Ils se doivent de contrôler, oui, beaucoup plus. Alors qu'un bâtiment, c'est les gens qui habitent à l'intérieur qui doivent sauvegarder leur patrimoine. C'est ce qui n'est pas fait.
Pour en revenir au risque, quand si par exemple un copropriétaire voit donc un des signes que vous avez évoqué en début d'émission, qui doit-il prévenir?
Alors, le syndic de copropriété en premier, il faut qu'il écrive à son syndic un mail ou un coup de téléphone, tout dépend de l'urgence qu'il a.
C'est très urgent.
C'est très urgent, la mairie. La sécurité civile de la mairie, les services techniques de la ville. Il faut qu'il appelle, comme à Toulouse, c'est la métropole de Toulouse, la mairie. Il faut appeler de suite pour dire, voilà, j'ai un risque d'effondrement, ils vont se déplacer. S'il n'y a pas de risque d'effondrement, ils vont rassurer. Mais en tout cas, il y aura un passage certain.
Voilà. On vaut mieux qu'ils se déplacent pour rien.
Mais évidemment. Mais sinon, le syndic. Donc, le syndic, s'il fait intervenir la bonne personne, un expert, un réel expert, pour expertiser les lieux, ça va bien se passer. Si certains, c'est pas la majorité des syndics, heureusement, hein, font intervenir juste une entreprise, un maçon, pour contrôler ça. Les maçons ont l'expérience, mais ils n'ont pas l'expertise. Hein.
Voilà, donc faut faire pas attention. Tous en tout cas. Enfin, certains peuvent l'avoir, mais.
Certains, mais bien sûr. Ouais. Les compagnons du devoir du Tour de France sont exceptionnels, ce sont de très bons experts. Ouais. Vous prenez un jeune maçon, ça va être un peu plus compliqué, quoi.
Ouais. Donc en fonction de l'urgence, donc la mairie ou le syndic.
Ou le syndic. Mmh. Et après, un expert en risque bâtimentaire, oui. Mmh.
Alors, Dominique, l'émission touche à sa fin. Deux questions avant de nous quitter. Bon, la première, nous sommes vendredi. Qu'allez-vous faire ce week-end ?
Eh bien déjà cet après-midi, sur Toulouse, j'ai un tournage avec la rédaction de TF1 sur justement des immeubles en béton qui sont en souffrance. Donc on va parler de la durée de vie de ces immeubles en béton qui sont, à partir de 50 ans, on doit commencer à s'en inquiéter. Et puis le week-end, ben, je vais continuer mes expertises. Hein, parce que la semaine, je ne suis pas là. Et le samedi, c'est là où les gens sont beaucoup plus présents. Et le contact avec mes experts Vauban, on reprend toutes les expertises. Et on regarde ensemble chaque point des expertises.
À Toulouse ou dans
Toulouse ? À côté de Castres, à Viviers-les-Montagnes, je suis. Mais mes experts sont dans toute la France. Donc on fait des visios régulièrement.
En tout cas, je reprends là ce que vous venez de dire. Hein, le fait que TF1 s'intéresse à l'état du bâti, c'est une bonne chose.
Les
médias s'emparent de ce sujet.
C'est très bien. Mais comme je vous dis, ça serait bien, c'est une émission de l'immobilier, quand on va à un bâtiment, de garder un quart d'heure ou 20 minutes pour parler de pathologie. Comme il y a beaucoup de spectateurs, ils sauraient reconnaître au moins les fissures structurelles.
Bien sûr.
Ça serait bien.
Et alors, dernière question, on l'a dit, on se quitte en musique. Oui. Votre second choix musical, c'est Florent Pagny, Les Murs Porteurs. Pourquoi ce choix, même si ça nous paraît à tous évident ?
Eh oui, Les Murs Porteurs, parce que c'est l'héritage que nous ont laissé nos anciens. Et comme je vous ai dit au début, il ne suffit pas de mettre de la couleur ou de la matière sur un bâtiment, parce qu'il est dans un secteur sauvegardé. Les bâtiments, ils ont une mémoire, ils ont, il faut les respecter, les sauvegarder. Et sans Murs Porteurs, on ferait quoi ? On n'aurait pas de bureau, on ne serait pas abrité pour habiter, ni pour travailler. Voilà, donc c'est important.
Ça me fait penser à quelque chose, il y avait une initiative qui avait été lancée, je crois que c'était par Stéphane Bern, pour entretenir le patrimoine français, vous savez, le fameux loto.
Oui.
C'était une bonne idée, ça ?
C'était une très bonne idée.
Pour trouver des fonds. Alors, c'était pour les châteaux, je crois, ou c'était...
C'est ce qui était dommage. C'est qu'il aurait dû faire ça pour les gens qui en avaient besoin. Beaucoup plus que sur ce patrimoine.
Après, c'est compliqué de le faire pour les particuliers, mais...
Mais ça aurait été bien, quand même.
Ah, d'ailleurs, Jason, à la technique, me dit que c'est toujours d'actualité. C'est chaque année. Le loto du patrimoine, c'est ça, ouais. Ouais. Et pour sauvegarder le patrimoine français, en tout cas, c'est vrai que c'est une idée qui est...
Très bonne idée.
Qui est très bonne.
Très bonne idée, oui.
Ouais. Peut-être s'en inspirer pour faire au niveau communal, je sais pas.
Oui.
Voilà, affaire à suivre. Oui. Bon, merci infiniment, en tout cas, Dominique Boussuge. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Bravo pour ce que vous portez, pour ce que vous apportez au bâti en France. Et on était ravis de vous recevoir sur Radio IMOF.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour un tout nouveau Mac de l'IMO. À très vite, portez-vous bien.
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur.
Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir, de faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur.
Restent les murs porteurs des amis en béton. un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon.
Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons.
Des promesses, la main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur.
Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur.
Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur.
Des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur.
Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon.
Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses pas ou vaincre ses démons.
De jouer les durs, les cascadeurs,
des souvenirs hauts en couleur,
de l'utopie d'un monde meilleur,
de tout ce qu'on a appris par cœur.
Restent les murs porteurs pour se couper du vent, tenir la longueur, faire face au tremblement. Restent les murs porteurs pour s'abriter du froid, pour conjurer le malheur et retrouver sa voix.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.